Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
18h34, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On continue à parler de sécurité avec cette agression d'un nonagénaire, porte de la Villette, 92 ans. Ce pauvre homme a été suivi jusqu'à chez lui par une toxicomane qui l'a frappé à plusieurs reprises, l'a dépouillé. Son état de santé inquiète au plus haut point les médecins. On va écouter son fils qui témoigne de cette agression ultra-violente. Explication Corentin Brion et Lepni Mokhtad.
C'était le 9 septembre dernier, porte de la Villette à Paris. Jean-Baptiste, un homme de 92 ans, est agressé par une toxicomane en se rendant au domicile de son fils.
Mon père s'engage dans le hall, il s'apprête à monter les escaliers qui mènent à mon appartement. Et au moment où il commence à monter, il reçoit un gros coup de matraque sur la tête. Enfin, on suppose que c'est une matraque souple, avec un plomb à l'intérieur. Il ne peut pas crier, mais malgré tout, il se retourne et il commence à se battre avec l'individu.
Jean-Baptiste se rend alors compte que son agresseur est une femme et arrête de se battre. Il est poussé vers le sol, roué de coups et se fait voler son portefeuille. Retrouvé par le gardien de l'immeuble inanimé, il est hospitalisé entre la vie et la mort. Son fils, désormais dans l'attente, est très inquiet.
Les médecins ont une espérance de vie pour lui de maximum de 6 mois après ce choc. Moi, j'espère un peu plus parce qu'il avait encore la possibilité de mener une vie, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, peut-être plus. Mais franchement, je suis terriblement peiné.
Une plainte a été déposée le 12 septembre dernier et la toxicomane, elle, interpellée quelques jours plus tard, à proximité d'un camp de consommateurs de crack.
Commissaire Lebars, on est là sur la problématique très particulière du crack et une agression d'un monsieur de 92 ans. Tout est permis désormais ?
Non, mais sur le crack, il n'y a rien de permis parce qu'il n'y a rien de compris. C'est des gens qui sont dans un état de délabrement intellectuel et de manque qui fait qu'on peut assister à des agressions qui n'ont aucun fondement à part de récupérer de l'argent pour acheter sa dose. Donc en fait, c'est le crime abominable sur une personne âgée. Déjà, c'est extrêmement choquant quand on a affaire à des personnes vulnérables. C'est un monsieur âgé. Moi, je connais bien ces populations accro au crack. J'ai travaillé dans les quartiers nord de Paris, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. C'est là où je conteste la politique de sécurité qui est menée depuis des années, parce qu'on voit bien l'échec. Les opérations de voie publique pour les déplacer, ça n'apporte rien à personne et tout de mauvais à ceux qui se retrouvent avec ces populations-là en bas de chez eux. La réponse pénale, elle est compliquée. Il ne faut pas non plus vendre ce qui est difficile à vendre. Le trafic de crack, c'est des microstructures, c'est un cuisinier de crack qui a quelques clients. Tout ça est très désorganisé. Il y a mieux à faire.
C'est-à-dire qu'ils cuisinent la drogue, c'est ça ?
Oui, ça se cuisine. C'est-à-dire que vous faites cuire.
C'est de la cocaïne.
Vous faites cuire, vous faites des petits cailloux. C'est pas très cher. Ça s'adresse à une population qui est en général accro très vite, qui est très désœuvrée. Mais comme vous êtes accoutumé de façon très forte, après, il vous faut votre dose. Et dans les doses, j'ai vu des gens se prostituer pour une dose. J'ai vu des gens agresser, j'ai vu des gens tenter de tuer. C'est absolument épouvantable et je pense qu'il y a 1 ou 2 angles morts sur cette politique qu'on doit mener, tous. C'est de considérer, moi je considère ces gens-là dans un premier temps, sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui et qu'il faut les mettre dans des structures psychiatriques contre leur gré pour ensuite les rentrer dans un circuit médical. Et ça, cet angle-là n'a pas été pris. On le fait bien avec des gens qui ont perdu la tête, qu'on trouve sur la voie publique. Il y a l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police à Paris. On devrait tenter ça. Je crois que le préfet Nunez n'y est pas hostile. En tout cas, il va tenter. Mais si on continue à attendre de la police qu'on règle le problème avec tout le milieu associatif qui est autour de ces gens-là, on voit... Moi, j'ai commencé, pour rappel... Il y a 25 ans, il y avait 15-20 consommateurs de crack. On appelait ça un petit campement. Aujourd'hui, c'est des centaines de personnes. Enfin, c'est pas possible de se retrouver avec des agressions pareilles. On voit bien qu'il y a des choses à faire qui n'ont pas encore été faites. Il faut tout tenter.
Là, on est porte de la Villette sur l'agression de ce monsieur de 92 ans, Louis Dragnel. Point de fixation du crack, régulièrement évacué, mais juste déplacé en réalité.
Mais ça sert à rien, les évacuations. En fait, c'est le degré zéro d'une stratégie policière. Enfin, je parle sous votre contrôle. C'est très bien pour les habitants, momentanément. Mais en fait, si on ne fait que déplacer le problème, ça sert strictement à rien. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. pour les consommateurs de crack qui n'ont plus aucune maîtrise d'eux-mêmes, puisque c'est la drogue, l'une des pires qui soit, accoutumance dès la première dose quasiment, et dépossession totale de ces moyens où les gens sont complètement dingues, bien en fait, il faut les interner d'office, effectivement, en hôpital psychiatrique.
Où il n'y a pas de place.
Hein. Où il n'y a pas de place. Donc il faut créer... En fait, il y a une surreprésentation... Non, mais ça, c'est un phénomène qui est assez peu exploré aussi. C'est la surreprésentation... Du nombre de personnes qui ont des problèmes psychiatriques dans la délinquance. Mmh. Je ne psychiatrise pas la délinquance, mais je pense que pour beaucoup de personnes, il faudrait qu'on puisse leur apporter une solution dans une unité psychiatrique pour d'abord protéger la société et ensuite protéger les personnes
elles-mêmes. Après, il y a la question du trafic en lui-même. Il y a des dealers, il y a des importateurs. On sait que la drogue vient de Guyane la plupart du temps. Qu'elle est ensuite transformée sur le sol français.
Alors, sur le crack, c'est particulier, hein, parce que la plupart de la provenance du crack, c'est de la cuisine locale. C'est des c'est les modous. Hein. C'est des petites cuisines locales, je vous dis. Il y en a en Seine-Saint-Denis, il y en a dans le nord de Paris.
Modou,
c'est
ça veut dire quoi?
C'est le terme couramment employé pour ceux qui cuisinent le crack.
Bon, c'est pas sénégalais.
Je vais pas faire de stigmatisation, mais il y a un autre angle mort, c'est que la plupart de ceux qui cuisinent ça, sont pour la plupart des gens en situation irrégulière, et encore une fois, c'est le sujet de la reconduite. Alors évidemment, ils trichent sur leur identité, évidemment c'est compliqué, évidemment c'est des procédures lourdes à monter, il y a des efforts à faire du côté des pouvoirs publics pour nous faciliter ces procédures-là, parce que là on part de zéro hein, si on doit tout remettre sur la table, mais je veux dire, la certitude, c'est que déplacer les populations, on voit le résultat, hein, tout le monde se plaint, on finit par soulager les uns et on punit les autres, et l'angle pénal est relativement faible, en tout cas sur les consommateurs, sur les dealers, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, il faut leur mettre le compte, mais il faut la procédure pour les expulser, et puis je suis persuadé qu'il faut absolument, parce qu'on ouvre bien des salles de shoot.
Oui.
Bon, voilà, si les pouvoirs publics ont les moyens d'ouvrir des salles de shoot, des salles de consommation, de réduction des risques, ils peuvent peut-être bien réfléchir au fait qu'il faut ouvrir des structures psychiatriques dans l'intérêt général. Il me semble que c'est quand même une priorité, surtout que les salles de shoot. En plus, c'est plutôt un échec si on devait en parler sur ce plateau.
Maître Golnadel et ensuite Nathan Devers, sur ce problème du crack.
Toxicomane ou pas toxicomane, attaquer un homme de 94 ans, je pense que ça montre le degré de civilisation ou d'incivilisation dans lequel nous nous trouvons. Et bien évidemment que le marché, d'ailleurs, c'est le producteur et le consommateur, hein, très souvent, et le marché est largement trusté par les migrants. Ces migrants que la mairie de Paris disait vouloir accueillir avec plaisir. Bon, eh ben on en est là.
Nathan Devers, sur ce problème qui est à la fois un problème sanitaire, on l'a évoqué, mais aussi un vrai problème sécuritaire désormais.
Sécuritaire et un problème politique, parce que c'est vrai que la réaction, en fait... Presque l'unique réaction qui a été adoptée pour l'instant face à cela, ça a été l'attentisme. L'attentisme déguisé en action politique. C'est là d'ailleurs que c'est particulièrement hypocrite, avec ce que vous disiez, des évacuations qui ne servaient à rien, à part à déplacer géographiquement le problème, c'est-à-dire à lui assigner des nouvelles victimes d'un nouveau quartier à quelques rues de là. Et troisième caractéristique, c'était le déni de la responsabilité. Étant donné que c'est un problème qui est un petit peu au carrefour entre la préfecture, la mairie, l'intérieur, chaque dirigeant politique estimait que ce n'était pas qu'il avait fait ce qu'il avait à faire et que c'était de la faute de quelqu'un d'autre. Et parfois, on a vu certains responsables instrumentaliser cette affaire pour critiquer un rival, quelqu'un en face dans une autre institution, etc. Et derrière, vous voyez des vies qui sont concrètement brisées depuis des mois, des riverains qui n'ont pas, je dirais, d'arrière-pensée politique dans la tête, mais qui juste font part, créent des collectifs et font part du fait que la situation est insupportable, invivable pour eux, qu'ils ne peuvent pas déménager. En tout cas, par exemple, pour ceux qui sont propriétaires, leurs appartements sont absolument invendables. Ils sont enfermés, assignés à résidence quelque part, dans une vie qui est intenable. Et si vous voulez, vous voyez des drames humains qui sont terribles. Quelqu'un qui a 92 ans, qui va peut-être malheureusement décéder à cause de ce qui lui est arrivé, il faut attendre quoi pour sortir de cet attentisme déguisé en action?
Tout le monde se renvoie la balle, commissaire Le Bars, hein, l'État, la mairie, la préfecture de police.
Mais l'État, il assume la grande part du sujet. Je vous dis, imaginez un commissaire de police ou un préfet de police à qui il manque le levier de la simplification procédurale pour tout ce qui est reconduite, parce que ce sujet-là, c'est un sujet politique. Hein. Il faut déjà les visas consulaires pour les gens qu'on identifie, pour pouvoir les renvoyer, on en a suffisamment parlé. Puis il y a le levier pénal qui n'est pas non plus entre les mains de celui qui a l'autorité de police. Donc quand il vous manque les deux leviers, c'est toujours pareil. On peut interpeller à tour de bras ce qu'on fait, on l'a déjà testé, on peut déplacer, on peut les mettre à des endroits où ils sont moins nuisibles, mais s'il n'y a pas le levier reconduite, si c'est des étrangers qui en plus commettent des troubles graves à l'ordre public, accessoirement, ils vendent de la mort en plus. Hein. On peut les poursuivre sur des affaires, enfin, avec des chefs d'inculpation très lourds. Et s'il n'y a pas le levier pénal, eh ben, on sera impuissant. Donc l'État se renvoie la balle à lui-même parce que il y a des jeux aussi obscurs. Moi, j'ai vu tout un tissu associatif autour de ces populations que certains ont tendance à présenter comme des victimes. Certes, hein, moi, je ne suis pas le dernier à dire que c'est des victimes, les consommateurs de crack, mais derrière, il y a des criminels. Et les victimes, il faut aussi les amener dans le chemin quand elles ne veulent pas y aller elles-mêmes. Il faut les amener de force. Moi, je maintiens que si on ne les amène pas de force, d'abord, il y en a certaines qui rentreront dans le circuit médical, et puis celles qui n'y consentent pas, bah, on pourra toujours se poser la question de la réponse pénale.
Ça veut dire que les policiers sont découragés de phénomène ?
Mais c'est ça qui est formidable chez les policiers. C'est que d'abord, il y a une résilience. Moi, je n'ai jamais vu un policier tourner la tête. J'en connais plein qui ont des histoires de multi-réitérants à 80 faits, qui savent très bien qu'il y en aura un 81e. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas interpellés. La police, elle a ce mérite-là. Par contre, ça commence à être une prise en compte, et dans la police, et parce que vous le montrez aussi dans les médias, que les outils nécessaires pour que la réponse sécuritaire soit au rendez-vous, c'est plus sur les seules épaules de la police. Et ça, c'est une forme de soulagement, parce qu'on se rend compte que nous, c'est nous, toujours nous qui prenons les reproches sur la voie publique. Vous savez, les victimes, qui elles viennent voir ? Elles viennent voir les policiers parce qu'ils sont accessibles. Les magistrats, c'est pas un reproche, ils sont dans leur bureau, ils sont pas accessibles. Donc les gens ne comprennent pas que la délinquance continue et les policiers sont les interlocuteurs de la rue. Donc on aimerait bien ne pas être que ceux qui essuient les reproches, mais on aimerait être en charge d'un résultat qui n'est pas que sur nos épaules.
Bah, le problème, un dernier mot,
vous êtes ce qu'on appelle quand tout a échoué. Les vies familiales ont échoué, quand le système scolaire, l'éducation, quand l'immigration, quand tout a échoué, en fait, vous êtes le réceptacle de tout ça. Donc, c'est à la fois la noblesse de votre métier, parce que c'est très humble, et en même temps, effectivement, il y a une part d'ingratitude. Ce que je note simplement, c'est que ce que je trouve très intéressant, ce que vous dites sur la partie immigration, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements, et le gouvernement actuel en fait partie, qui continuent de faire venir, qui maintiennent le flux avec entre 270 et 290 000 immigrés légaux par an, plus les illégaux, et ensuite qui déplorent les conséquences de cette politique. Et en fait, il y a un moment donné, il va falloir voir cette politique en toute cohérence et qu'on voit qu'il y a une surreprésentation des délinquants, des étrangers dans la délinquance. Eh bien, il va peut-être falloir se poser la question de réduire au moins flux de l'immigration avant de s'attaquer au stock des immigrés qui sont présents sur le territoire français qui ne sont pas assimilés.